Cette semaine, à la vie en BD, Michel Giguère et la mécanique du rire, Christian Quesnel et Advocatus Diaboli. Et vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. De retour pour une 13e saison d'ailleurs, en fait, quand on fait les décomptes comme ça avant l'automne, on se rend compte qu'on a quand même un bon bout de chemin de parcouru. C'est la 416e émission. Et si mes calculs sont bons, à quelque part dans le courant de l'année radiophonique 2023-2024, eh bien, on devrait atteindre la 450e émission de La Vie en BD. Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais par contre, je pense que ça met en perspective à quel point il y a de quoi dire, il y a de quoi jaser autour de la bande dessinée. Oui, dans l'actualité des publications, mais même autour de l'actualité des publications elles-mêmes, dans le contexte d'un médium qui est en belle évolution, en belle progression depuis 12 ans. Je pense que le paysage a bien changé. Il y a eu des belles constantes au fil de ces 12 années-là. Il y a des éditeurs qui sont apparus, qui sont disparus. Il y en a qui ont également grandi, pris en importance. Il y a des auteurs qui se sont établis, il y a des auteurs qui émergent année après année après année également, et ça nous fait parfois des fort belles surprises aussi, donc on découvre au fil des lectures. Alors tout ça pour dire que c'est un plaisir constamment renouvelé d'être avec vous, un plaisir en fait que je comprends quand je me retrouve derrière le micro, quand je me retrouve à préparer les rencontres, les entrevues, les discussions qu'on a ensemble, moi, les invités et vous par extension. Alors cette saison, qui ressemblera un peu à la dernière, je pense que l'année dernière on a trouvé une formule qui à tout le moins me plaît, qui semble vous plaire également, du moins je l'espère. Alors un fin d'équilibre entre chronique et discussion sur différents aspects de la bande dessinée, des entrevues entre guillemets courtes d'environ une demi-heure, des entrevues un peu plus longues d'environ une heure, nos clubs de lecture qui sortiront peut-être un peu des thématiques sociales pour revenir vers des considérations stylistiques ou scénaristiques au fil de la prochaine année, tout ça et plus. Et je pense tout ça dans l'objectif en fait de vous donner le goût de lire de la BD, d'en lire toujours plus, de nous donner le goût de continuer à en lire aussi. Alors bref, une nouvelle saison sous le signe de l'amour du 9e art. Si vous nous attrapez pour la première fois aujourd'hui et vous dites où sont-elles ces 415 émissions précédentes, eh bien j'en profite pour vous rappeler que la majeure partie du matériel qu'on a produit au fil des années est disponible également sur lavieenbd.com, entre autres plateformes de balado-diffusion. Alors voilà donc pour ces prémices, et cette semaine pour commencer la saison, je pense qu'on a un habitué en fait avec qui on doit parler en début de saison, du moins c'était le cas pour les 4 dernières années, incluant celle-ci. Alors on l'avait rencontré pour parler de Vous avez détruit la beauté du monde, pour parler de Mégantic, pour parler de La cité oblique. On le rencontre en deuxième partie d'émission aujourd'hui pour parler d'Advocatus Diaboli. On profite de la réédition de cet album chez Moelle Graphique pour aborder avec lui la conception de cet ouvrage-là, qui est également un mémoire de maîtrise, qui est également une exploration stylistique et graphique. Alors donc en deuxième moitié avec Christian Quesnel, et pour la première moitié de l'émission, on s'intéressera à la mécanique du rire. On aura le plaisir de retrouver un autre de ses collaborateurs de la première heure de l'émission, Michel Giguère, qui lui poursuit également avec ses rendez-vous de la BD. Et voilà, donc à la vie en BD, on a le plaisir maintenant d'accueillir Michel Giguère qui est devant moi ici en studio. Bonjour Michel.
Bonsoir Raymond, bravo pour ta longévité. Hein.
Et j'ai envie de te dire bravo pour la tienne aussi. En fait, j'ai l'impression que t'es un peu comme moi. À un moment donné, on finit par faire des analyses, des bilans et on se rend compte que ça fait longtemps qu'on en parle de la BD, toi encore plus également. D'ailleurs, en fait, t'es ici parce que moi, je reprends du service, mais parce que toi aussi, tu reprends du service. Mm-hmm. Chaque année, le mois de septembre, ramène les rendez-vous de la BD. Et pour ceux qui sont physiquement ici à Québec, ça reprend demain à 19h à la Maison de la littérature. Et pour ceux qui sont physiquement ailleurs qu'à Québec et qui nous écoutent, c'est également disponible sur la page Facebook de la Maison de la littérature en rediffusion. Tout ça en collaboration avec la Bibliothèque de Québec. Alors, Michel, content de te savoir de retour à nouveau à la barre des rendez-vous de la BD et à nouveau ici à l'émission.
C'est un plaisir partagé.
Alors, 38e saison, quand on disait des chiffres, toi, tes analyses, ça veut dire que ça fait, on divise en deux, puisque tu comptes des saisons comme étant littéralement des saisons.
Ben, oui.
Mais ça fait quand même un bout, ça fait pratiquement 19 ans.
On est en train de réfléchir à comment marquer le coup pour la 20e année, là, puis la 40e saison, ça va être l'année prochaine.
Le centre Vidéotron, Michel.
Le centre Vidéotron.
Alors, en fait, la 38e saison s'ouvre sur un thème qui est léger en apparence, lire et rire, le comique en BD.
Ben oui, comme disait Rezer, on vit une époque formidable. L'humanité fonce dans le mur climatique, les opinions se polarisent vers la droite populiste puis la gauche intégriste. On sort de la pandémie pour s'enfoncer dans la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation, l'invasion de l'Ukraine. Je me suis dit que ça nous ferait du bien de rire un peu, en tout cas tout au moins de sourire.
Et le matériel promotionnel spécifique que Lire et Rire est présenté en supplémentaire, on commence à en avoir l'habitude un peu. Tu vas piger dans tes 18 précédentes années.
Oui. Je sais pas si tu te rappelles, oui, tu as l'air de t'en rappeler, là, manifestement, mais l'idée de ces supplémentaires-là, c'est d'alléger un peu ma charge de travail. Alors, ce sont des reprises. Et par exemple, ce thème-là, Lire et Rire, je l'avais présenté en décembre 2007. Pas sûr qu'il y a bien du monde qui se souvient de mon exposé ou des images là, qui avaient été projetées il y a 16 ans. Bien entendu, le diaporama a été remanié, restructuré et bonifié d'exemples plus récents.
Et évidemment, te connaissant, Michel, je doute pas que tu vas aborder la bande dessinée comique, et ce, avec un grand sérieux. Alors, tu viens de faire allusion à la structure de ta présentation. Alors, peut-être profitons-en pour utiliser cette structure-là pour mettre la table pour la discussion de ce soir. Alors, c'est quoi un peu les grandes lignes que tu vas amener en parlant justement de la bande dessinée humoristique?
Eh bien, d'abord, les habitués des rendez-vous de la BD le savent. Je trouve ça important de mettre en contexte, de rappeler que rien n'a été inventé la veille, spontanément comme ça, là. Je vais donc proposer un bref historique pour, après, cerner les trois grandes catégories du comique en BD, soit premièrement le comique visuel, ça c'est quand la drôlerie vient du dessin, de la représentation en soi. Deuxièmement, le comique textuel, c'est-à-dire qu'on rit pas juste en feuilletant, il faut se donner la peine de lire pour trouver ça drôle. Là, je vous résume ça de façon très très terre-à-terre. Et troisièmement, le comique de situation. Le comique de situation, lui, vient du contexte, donc de l'interaction entre divers éléments. Les personnages, le moment, le lieu, l'environnement, les gestes et les paroles qui peuvent engendrer des malentendus ou des catastrophes. Tout ça expliqué avec plein d'exemples à l'appui des extraits projetés sur grand écran, comme d'habitude. Et puis tiens, un exemple d'exemple, la série Le Guide du Mauvais Père, ça repose essentiellement sur le comique situationnel, parce que Guy Delisle imagine toute une succession de situations lors desquelles il agit de manière irresponsable, inconséquente et ou égocentrique avec ses enfants.
Donc, on peut comprendre dans la structure que, premier élément, donc, on met en place l'histoire du médium. Ensuite, on parle des grands types, dans le fond, de comiques en BD. Et ensuite, on irait vers quoi?
On va se pencher sur les formes de la BD comique. Et puis ensuite, ses procédés. Et finalement, on va conclure sur ses styles.
Et là, on est dans l'abstrait, on va ramener ça au concret. Donc, Michel, tu dis ses formes, ses procédés, ses styles. Alors, je pense qu'on peut élaborer un peu là-dessus. Commençons par le premier terme. Donc, qu'est-ce que tu entends par les formes? Est-ce qu'on dit, par exemple, le gag d'une planche, le strip?
Ben oui, c'est exactement ça. Le gag d'une planche, là, tu as nommé les deux plus fréquents. On rencontre ça, le gag d'une planche, par exemple, dans Gaston Lagaffe, que Delaf a repris et dont le premier recueil va enfin sortir cet automne au terme d'une saga sinon judiciaire, tout au moins juridique. Et le gag d'une planche obéit à des mécanismes et des lois dont le BDiste doit faire un usage précis, dosé, rythmé, fluide, réglé comme une horloge. Une forme de gag qui repose souvent sur la chute à la dernière case. Et pour maximiser l'effet de la chute, eh bien, l'auteur conserve très souvent le même cadrage, le même angle de vue, les mêmes dimensions aux cases. Il veut éviter qu'une quelconque variation de la mise en scène ou de la mise en page vienne divertir le lecteur et diluer le gag.
Et du côté du comic strip?
Ah ben là, le strip ou encore le gag d'une bande, ça c'est une discipline en soi, c'est une discipline qui est exigeante, délicate, contraignante. Les albums de Calvin et Hobbes, par exemple, sont en fait des recueils de comic strip qui sont initialement parus dans les journaux. C'est pour ça que les albums en question sont constitués de séries de 6 comic strips. Donc ça, c'est ce qui était paru originalement du lundi au samedi. Strips entre lesquels s'insèrent des gags d'une page ou d'une demi-planche. Ça, c'est ceux qui sont parus dans l'édition du dimanche dans un cahier spécial. Et parmi les dommages collatéraux de la disparition des journaux imprimés, et il y a le fait que ça entraîne aussi celle du comic strip. Dans les années à venir, là, rien va empêcher des BDistes de se lancer dans le gag d'une bande. Mais ils vont constituer forcément un type très spécifique de créateur puis de créatrice en voie de disparition. C'est une forme qui se réduit déjà comme peau de chagrin au moment où on se parle. Tu te souviens que le 11 février dernier, le Québécois Daniel Shelton a fait paraître l'ultime strip en français de sa populaire série Ben. Alors, dans leur virage numérique, ben, les quotidiens ont évacué les BD. Et ça sonne le glas d'une des plus importantes formes d'existence du 9e art dans son histoire, là. Une forme qui a existé dans le support des quotidiens.
Et un élément, Michel Duguerre, que tu as mentionné, c'est les gags d'une demi-planche. Est-ce que on peut dire que ça aussi, c'est une autre, entre guillemets, forme de BD comique?
Oui, les gags d'une demi-planche sont un peu moins répandus, mais c'est quand même la forme qu'on choisit. Par exemple, Ferry et Larsenet dans Le Retour à la Terre. Par ailleurs, les gags d'Achille Talon font généralement 2 planches. Ça, c'est un format moins fréquent lui aussi. Il y a les histoires de quelques planches, 4 ou 5, comme chez Edika ou Caroline Soucy avec son Paul Polaire. Ça va dans toutes sortes de styles, comme on voit. Et pour finir, il y a également, et c'est très important, parce que le comique en BD, ce ne sont pas que des gags, il y a également les scènes rigolotes qui jalonnent les récits longs de 46 planches ou davantage.
Et donc ça, c'est vraiment pour les formes de bande dessinée comique. T'as aussi évoqué les procédés comiques. Alors j'imagine qu'on tombe dans quelque chose qui est peut-être un peu plus technique.
Ah ben là, ben, c'est plus technique, puis en même temps, moi, je trouve ça passionnant. Les conteurs, dans divers modes d'expression narrative, d'ailleurs, romans, théâtre, cinéma, ils bénéficient de divers procédés pour provoquer le rire. Pour pleurer, il y a le violon. Pour rire, il y a autre chose. Alors, par exemple, la caricature ou la moquerie. Et dans ces cas-là, quand le récit finit par reposer essentiellement là-dessus, on va dire que ça s'inscrit dans le genre, là, ça devient un genre de la satire ou de la parodie ou du pastiche. Il y a d'autres outils comiques, évidemment. Il y a l'exagération, la destruction, qui est pas rare dans Astérix, pour en nommer qu'un, l'accumulation, l'anachronisme, l'irrévérence, la frénésie. Par exemple, le chat de Gaston provoque souvent la frénésie. Il y a l'animation des objets, notamment donner vie aux choses inanimées, par exemple des légumes qui deviennent des personnages comme dans Le Concombre Masqué, ou encore dans Calvin et Hobbes, un toutou en peluche qui devient sous nos yeux un grand tigre parce que c'est ce qu'il est dans l'esprit du petit garçon. L'anthropomorphisme aussi, qui consiste à faire agir et penser des animaux comme des humains, et un qui est incontournable, et puis même dans l'histoire du comique, là, c'est le quiproquo, qui est qui se résume au malentendu, à la méprise. Le quiproquo, c'est un procédé comique qui s'inscrit dans la catégorie, pour revenir à mes grandes catégories de tantôt, là, du comique de situation, évidemment. Autre outil comique, et là, on va avoir plein d'exemples pour les illustrer, l'attention ou encore le malaise. Ça, c'est un procédé infaillible en comédie, c'est-à-dire placer le personnage dans une situation impossible ou encore pénible. Pour un, par exemple, Rabagliati n'hésite pas à placer son alter ego dans toutes sortes de situations qui le montrent pas sous son meilleur jour. Alors, mettre son personnage ou ses personnages dans une situation inconfortable, ça peut consister aussi à faire déménager un couple de la grande ville dans le fin fond de la campagne, comme dans l'hilarant Retour à la Terre.
Et tout ça, évidemment, pour l'instant, on lance des termes, des éléments. Je tiens à le rappeler, en fait, si les gens veulent voir un peu au-delà de la description qu'on en fait ici au micro, eh ben, on peut profiter justement demain à la Maison de la littérature, demain sur Facebook, puisque là, tu vas montrer les planches, on va pouvoir les voir, les exemples. Ça pourra peut-être aussi aider les gens à bien complémenter et à bien saisir, je pense, qu'on est en train de décrire.
Ça va surtout être plus drôle de voir les planches en question. Ça va être, à mon avis, un feu d'artifice comique. Alors, un autre principe très efficace puis très répandu, la récurrence. Forcément, quand tu crées des personnages qui reviennent à chaque jour ou à chaque semaine pendant des années, il y a des situations qui finissent par se répéter, et pour le plus grand plaisir des lecteurs et des lectrices. Et c'est pourquoi la récurrence est particulièrement présente là, dans les comic strips ou dans les planches là, qui paraissaient dans des quotidiens ou des hebdos. Combien de fois Lucy a enlevé le ballon de foot au moment où Charlie Brown s'apprête à le botter, hein? Ce principe de la récurrence, on le rencontre aussi allègrement chez Gottlieb avec la coccinelle, Newton ou le professeur Burp. Beaucoup chez Goscinny avec les Dalton rentrant plein Obélix qui peut pas boire la potion. Et puis les pirates ou encore Is No Good qui veut être calife à la place du calife, etc. Pendant des années, Franquin a imaginé toutes les déconvenues possibles pour empêcher M. Demesmaker de signer les fameux contrats. Les gags récurrents, finalement, installent une complicité entre l'auteur puis sa lectrice ou son lecteur. Autre outil comique, certains BDistes nous font rire en jouant avec les codes du médium. Jean-Paul Hyde, par exemple, à travers son banlieusard nommé Jérôme Bira. L'album Le Fond du Trou était disponible dans les bibliothèques, mais malheureusement épuisé chez les libraires depuis longtemps. Alors voilà que la pastèque le réédite cet automne. Là, je dis des affaires comme si c'était des scoops, mais je suis sûr que tu en as déjà parlé à ton émission.
Ou je vais en parler éventuellement.
Bon. Et je vais compléter ma liste de procédés avec un autre qui est très, très important, très fréquent, l'absurde. Incontournable. On n'a qu'à penser à Cul-de-sac de Richard Thompson, aussi à Tom Gold, qui est publié en français par Alto, ou encore Fab Caro en France, Francis Desharnais au Québec, avec ou sans Alexandre Fontaine-Rousseau au scénario. Alors, tous ces gens-là, on va voir leur planche demain soir. Et puis, pour rester dans l'absurde de la série, le génie des alpages par Fmur a poussé l'absurdité jusqu'au non-sens. Et le recours au non-sens, eh bien, le neuvième art l'a utilisé. Ça remonte à aussi loin que 1910 avec Crazy Cat de George Harriman.
Et dernier élément des catégories qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est la question des styles d'humour.
Oui, les styles d'humour sont multiples, on s'en doute. Ça va de l'humour vache dans sa variante ado avec les nombris par Delaf et Dubuc, jusqu'à l'humour vache dans sa variante âge d'or avec les vieux fourneaux, en passant par l'humour implacable d'un Riyad Satouf qui fait souvent rire jaune. Et ce qui est impressionnant dans l'évolution du 9e art, c'est que dès le départ, l'humour en BD s'est décliné dans une palette des tons les plus variés. Je disais tantôt Crazy Cat, ça remonte à 1910 pour ce qui est du non-sens. Eh bien, il y avait aussi l'humour onirique, poétique, avec Little Nemo in Slumberland, qui a existé de 1905 à 1926. Humour à saveur philosophique, politique et sociale avec Pogo, encore aux États-Unis. Humour pince sans rire, décalé et intellectuel avec Peanuts, ou si vous préférez Charlie Brown, Snoopy et compagnie. Humour qui bouscule la bienséance avec Popeye ou encore les pieds nickelés des anti-héros mal léchés qui préfigurent d'une certaine façon Et la BD Underground, qui s'est développée aux États-Unis pendant les années 60, en pleine contre-culture, et aussi, à la même époque, la BD satirique d'outre-Atlantique, avec, entre autres, la revue Harakiri, qui était, quant à elle, plus politique là, que ce qu'on voyait du côté États-Unis.
Et si on va chercher des exemples au Québec, on pourrait penser dans cette veine-là le magazine Crow, qui s'inscrit aussi dans la veine satirique mordante.
Ah oui, tout à fait, ce qui a existé de 79 à 95. Et puis, 8 ans avant la création de Crow, l'historien Léandre Bergeron adapte en BD son petit manuel d'histoire du Québec avec la complicité du dessinateur Robert Lavaille, sous un angle historique qu'on pourrait qualifier de carrément marxiste, hein, et puis un ton assez vitriolique, merci.
Et là, tu as mentionné beaucoup de noms. J'imagine c'est des auteurs, autrices qu'on va découvrir à l'écran au fil de la présentation. Mais si on y va avec d'autres auteurs comiques qui font un peu cette première sélection-là, est-ce que tu aurais d'autres noms à nous proposer?
Ben oui, c'est comme si je lançais des hameçons à l'eau pour prendre de plus en plus de poissons. J'espère que ça va vraiment intriguer les gens. Alors oui, des noms éminemment évocateurs. Crumb, Rezer, Cabu, Greg, Kino, Claire Bretéché, Pétillon, Lausier, Edica, Goussens et autres, Margot Motin.
Alors évidemment, beaucoup de titres, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à garder en tête aussi quand on lit nos BD d'humour, ce genre de rencontre-là, mais je pense que ça nous permet de mieux apprécier, peut-être de mieux saisir la mécanique derrière le gag, parce que c'est pas facile de faire rire,
non.
Sincèrement, c'est difficile.
C'est bien plus facile de faire pleurer quand tu fais de la fiction que de faire rire les gens, oui.
Et évidemment, ça veut dire aussi que de ton côté, ben, on va aussi entre sérieux et humour, puisque les planches seront assurément nous faire sourire. Alors, je rappelle que la diapo-conférence s'intitule « Lire et rire ». Donc, demain soir, Maison de la littérature dans le Vieux-Québec, à Québec, et aussi en ligne sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Pour ceux qui s'y rendent en présence, l'accès est gratuit, il n'y a pas de réservation requise. Et pour ceux qui vont aller la voir, ben, ça commence à 19h, pile-poil également. Il n'y a pas de retard de ce côté.
On peut pas, parce que comme c'est web diffusé, là, c'est, on n'attend personne, on part.
Voilà. Alors, ben, l'invitation est lancée. Et nous, Michel, ben, outre demain, on se retrouve évidemment au fil de la saison pour continuer à décortiquer un peu autour de la bande dessinée avec pas mal de beaux thèmes, d'ailleurs, cette saison-ci de ton côté.
Ah, ben, merci. J'essaie de faire toujours ça varié. Et puis là, ben, déjà, demain, je pense que dans la seule soirée de demain, ça va déjà être varié parce qu'on a vu que j'avais une approche un peu technique pour quelque chose qui, dans le fond, est tout à fait léger et les planches vont faire contrepoids demain. Là.
Alors, à découvrir, alors c'était Michel Giguère, donc médiateur en bande dessinée, animateur des rendez-vous de la BD. Toujours l'écoute de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous. Avant de se diriger vers la prochaine section de l'émission, je fais une petite parenthèse pour mentionner deux prix BD qui ont été donnés dans les dernières semaines et au fil de l'été. Alors notamment, ben, en début de semaine, là, pour la 5e fois, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a récompensé une publication issue d'un pays de culture anglophone et adaptée en français par un éditeur francophone. Alors c'est le prix Comics de la critique ACBD. Et donc l'édition 2023 a remis le prix à Echolands, donc le premier tome d'une bande dessinée donc qui est écrite et dessinée par W. Aidan Blackman et John H. Williams III, mis en couleur par Dave Stewart et publié aux États-Unis par Image Comics. C'est adapté en version française par les éditions Panini Comics. Donc, il succède en fait à Monstre de Barry Windsor-Smith qui avait remporté l'an dernier. Alors, c'est un recueil de 6 épisodes qui, selon le comité et selon les gens qui ont voté à ce prix, donc fait la démonstration d'une créativité narrative dans la mise en scène comme dans la composition graphique qui rend hommage à l'ensemble des facettes de la culture populaire, une inventivité qui correspond donc parfaitement aux ambitions des prix de l'association. Et les quatre autres titres en compétition étaient Come Home and Dio de Jim Terry, Dans les yeux de Billy Scott de Zoe Thorogood, Demon Days de Peach Momoko et Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Et si on reste du côté de la CBD également, en fait j'aime bien les prix de cette association, on parle quand même de près d'une centaine de journalistes et chroniqueurs BD à travers le monde qui participent au vote final et des experts qui participent à la présélection. Alors donc il y a aussi le prix Asie de la critique ACBD qui a été remis un peu plus tôt cette année, en fait ça a été remis en juillet pendant notre pause radiophonique. Alors, ça a été remis à Darwin's Incident de Shun Umezawa, publié aux éditions Kana. Donc, ce prix distingue une bande dessinée asiatique remarquable parue en français dans l'année qui a précédé le prix. Alors, actif depuis 98, le quadragénaire Shun Umezawa s'est longtemps consacré au format court, enchaînant les portraits cyniques du genre humain et autres nouvelles de science-fiction. Si certains de ses recueils ont été traduits en italien ou en espagnol, le monde francophone va découvrir l'auteur avec Darwin's Incident, sa première série longue, auréolée de prestigieuses récompenses nippones et accueillie avec enthousiasme par la critique de la francophonie. Alors dans cette œuvre, qui est toujours en cours de parution d'ailleurs, un hybride mi-garçon, mi-chimpanzé, le Humanzee, voit secrètement le jour au sein d'un laboratoire californien. Il sera baptisé Charlie, adopté par un couple humain, et son existence va secouer une société américaine déjà au bord de l'implosion. Alors sous un trait clinique et une approche hollywoodienne où Umezawa va livrer un habile mélange entre spectacle musclé et réflexion existentielle. Alors, il y avait quatre autres titres en lice pour le prix. C'était Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto, Box qu'y a-t-il dans la boîte de Daijiro Morohoshi, Les enfants du rêve chinois de Luxi et enfin Irayazumi de Keigo Shinzo. Alors voilà donc pour ce clin d'œil aux différents prix de la CBD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Raymond Poirier toujours avec vous. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous êtes sur différents médias sociaux, ben la vie en BD et notamment sur Instagram et sur Facebook, alors n'hésitez pas à aller suivre l'émission pour voir les menus, voir ce qui s'en vient et suivre quelques actualités BD. Alors, on va maintenant regarder, et j'ai l'impression de faire un petit retour aussi dans le passé avec quelqu'un qu'on va sûrement également revoir au cours de la saison. Alors, il est avec nous au bout du fil, Christian Quesnel, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors Christian, je disais, enfin, on va se projeter dans le passé puisque on parle de la réédition d'un album qui par ailleurs était également ton projet de mémoire création à l'Université du Québec en Outaouais dans le cadre du programme de bande dessinée là-bas. Et j'aurais envie de commencer peut-être parce qu'on te connaît bien à l'émission autant que dans la planète BD, notamment au fil des dernières années. Je disais à la blague en ouvrant l'émission qu'on ouvrait à chaque année avec toi ces derniers temps. Vous avez détruit La beauté du monde, Mégantic, plus récemment La cité oblique. Évidemment, il y a eu d'autres albums avant aussi. Et peut-être que ça serait bon de nous positionner un peu Advocatus Diaboli, parce que c'est une BD donc qui a été produite dans le contexte d'un projet de maîtrise. Il y avait une production avant Advocatus, il y a eu une production après. Est-ce que cette BD-là a une place un peu particulière dans ta démarche pour ne serait-ce qu'orienter un petit peu ce qui allait suivre et de cadrer les explorations que tu avais faites précédemment?
Ben en fait, ça m'a permis, Advocatus Diaboli, ça m'a permis vraiment de théoriser mon travail. C'était le point de départ où j'ai arrêté de faire des choses de façon instinctive. Puis j'ai commencé à y réfléchir, puis à appliquer carrément ces choses-là en pleine conscience, dans le fond. C'est aussi le premier album que j'ai fait où j'ai travaillé avec l'aquarelle. J'avais jamais travaillé à l'aquarelle auparavant, tu vois. Le projet qui a précédé, ce qui est pas pour aider, le projet qui a précédé Advocatus Diaboli, c'est Une bonne année pour les olives, que j'ai fait pendant 2 ans et demi. qui n'a jamais été paru, en fait, qui était un scénario inédit de Claude Dutras. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé en 2016. Le livre est sorti, puis bon, scandale autour du nom de Dutras. Mais le livre qui est paru avant que je fasse Advocatus Diaboli, c'était Ludwig. Mm-hmm. Donc, ça se situe un peu par rapport à mon travail. Puis le projet qui a suivi, autant Advocatus Diaboli, c'est le projet qui m'a demandé le plus de temps, d'énergie. Juste regarder la bibliographie, j'ai deux bibliographies. J'en ai une scientifique, puis j'en ai une au niveau du sujet de recherche. Mais c'est le plus gros projet. Puis celui qui a suivi ce projet-là, c'est le projet le plus simple que j'ai fait, qui s'appelle Philippe Petlard, La Louette en liberté. Donc, les projets se répondent un peu comme ça.
Oui, en fait, quand on va dans quelque chose de complexe, de dense, à un moment donné, on a envie peut-être d'avoir quelque chose qui est purement poétique, purement émotif, peut-être un peu, malgré qu'encore là, dans Félix, puis on en avait parlé à l'époque, mais il y a quand même un travail de composition, de manière d'aborder l'image aussi, qui nécessairement a dû être teinté par le projet précédent.
Oui, ben en fait, tu vois, Advocatus Diaboli, c'était très intellectuel. C'était vraiment un projet de tête. Tandis que Félix Hetler, c'était beaucoup plus aérien. C'était quelque chose de beaucoup plus léger, plus poétique, comme tu dis, oui, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment ça qui, en fait, on dirait que quand je suis très densément dans un projet comme ça, surtout sur une centaine de planches, après ça, on a eu le goût vraiment de retrouver une certaine légèreté. Donc, c'était ça un peu, là. C'est ça que ça a provoqué chez moi, là.
Et dans les prochaines minutes, on va plonger. J'ai l'impression que j'aurais envie de le sentir d'abord sur les aspects visuels, parce que je trouve que l'approche visuelle et les nécessités narratives de cet album-là, ensuite, amènent un peu les nécessités scénaristiques, j'ai l'impression. Et peut-être, juste pour me replacer, est-ce que, justement, l'idée de départ était vraiment l'exploration visuelle et l'histoire du linceul de Turin, l'histoire de ce qui entoure un peu cette recherche-là à deux époques charnières, si on peut dire. Est-ce que l'idée scénaristique est venue au départ, ou est-ce que c'est vraiment justement une idée que tu avais en tête et que tu t'es rendu compte que ça allait parfaitement s'appliquer à la recherche visuelle que tu avais envie de faire?
En fait, ce que j'avais en tête, c'était ni le scénario, ni l'esthétique, la bande dessinée. Ce que j'avais en tête, c'était conceptuel. C'était le dispositif de la bande dessinée, ce qui fait en sorte que l'histoire, le récit se déroule devant nos yeux. Tout le processus visuel que le lecteur passe à travers pour entrer dans un récit, moi, je voulais jouer là-dedans. Je me disais, qu'est-ce qui est possible de faire en bande dessinée qui n'a jamais été fait pour transformer, si on veut, une narration, puis le temps du lecteur aussi qui peut changer, puis le temps aussi du récit. C'était vraiment de tricoter autour de ça. Ensuite, c'est sûr que l'aspect visuel, quand l'aspect visuel m'est venu au niveau des transitions temporelles, c'est sûr que là, ça a déclenché quelque chose là, qui était vraiment, pour moi, une belle trouvaille. Mais j'avais déjà le sujet, parce que, étant donné que je voulais jouer avec les temps dans la bande dessinée, j'ai choisi un sujet qui était où je pouvais faire des bonds de 700 ans dans le temps. Ça fait que ça me permettait vraiment de jouer avec l'aspect visuel en amalgamant des objets complètement qui avaient l'air anachroniques. Mais cet anachronisme-là provoquait un changement temporel chez le lecteur qui était automatique.
Mm-hmm. Oui, quelque chose qui... Et c'est expliqué aussi un peu en finale, parce que tu intègres des éléments qui résument un peu le propos, d'ailleurs, de ton mémoire. Donc, on peut contextualiser le concept derrière ça. Mais vraiment dans l'idée que si on faisait ce type de transition-là purement à l'écrit, ben ça serait une phrase, ça serait, à défaut d'un meilleur terme, presque une césure un peu. Donc, on parle d'un élément, on passe à autre chose. Et là, on est vraiment plus, encore là, à défaut d'un meilleur terme, mais vraiment dans le glissement, dans quelque chose qui devient très, très... qui est très réfléchi, mais qui doit se rendre de façon hyper organique, dans le fond, pour que par le regard, on comprenne où on s'en va, puis on suive un peu comme une vague, au bout du compte.
Oui, exactement. Tu vois, quand on lit une phrase, nos yeux défilent de gauche à droite. C'est la même chose en lisant une planche de bande dessinée. Tandis qu'avec l'anacolute, en fait, qui est une figure de style, qui est une erreur syntaxique, parce qu'il y a une virgule, à un moment donné, il y a une structure de phrase, il y a une virgule, puis après, la structure de la phrase, elle change. Donc, la virgule devient un pivot. Fait que c'était de déplacer, c'est de déplacer dans l'image, de transposer ce concept-là dans l'image, la virgule étant remplacée par un pivot quelque part dans l'image, où le lecteur, à partir de là, dans un coup d'œil, lui, il franchit 700 ans. Donc, c'était vraiment de transposer cette figure de style littéraire-là à l'intérieur du système de bande dessinée. En fait. Puis là, je venais vraiment tricher parce qu'habituellement, on a une scène, mettons au Moyen-Âge, la scène se termine avec des cases, puis on tourne la page, puis là, il y a une grande case qui fait une ouverture sur le 20e siècle, puis là, on redémarre. Mais moi, c'était un peu cet arrêt et on redémarre, on arrête l'histoire puis on la redémarre en deux temps. Ben moi, c'est ça que je voulais éviter avec mon projet. Je voulais vraiment créer ce pivot temporel-là qui faisait en sorte que la lecture du lecteur, il n'y avait pas d'interruption. En fait.
Et pour figurer, ben je pense qu'on peut rentrer dans une planche spécifiquement. Je vais essayer de la décrire. Évidemment, j'encourage les gens à lire l'album. Ça va être beaucoup plus limpide. Mais il y a une scène, par exemple, qui démarre en fait en termes de décor. Donc, d'un côté de la page à gauche, on a donc plus un bâtiment de type médiéval. Donc, t'as un chevalier qui est sur son cheval, qui tient une épée. Et l'épée, dans le fond, va, dans son prolongement, se transformer en avion dans une ligne directrice où on a, dans le fond, le scientifique qui, lui, est au 20e siècle, donc qui est vraisemblablement assis dans l'avion. Et donc, l'épée et l'avion envoient le regard vers cette zone-là. Et là, tranquillement, le décor, lui, nous ramène vers la modernité, vers la ville, vers l'aéroport.
Exactement. Derrière le chevalier, c'est une tour du Moyen-Âge. Devant le chevalier, tu as la tour de contrôle de l'aéroport. Donc, il a 700 ans, il est franchi en une seconde, en fait.
Et quand on parlait de glissement, ben c'est un bon exemple, ou simplement un regard, oups, t'as pas besoin de transition autre. On fait simplement, dans le fond, j'irais soit remplacer, soit substituer, soit faire apparaître des éléments d'autres époques à l'intérieur de cette construction-là pour amener le lecteur à faire ce glissement-là.
Justement, dans ce cas précis-là, le métal me servit d'excuse, en fait, parce que je pouvais utiliser la matière comme l'épée et la matière qui est l'avion. Le métal de l'avion pour créer cette forme-là qui normalement ne va pas ensemble, mais là, ça se confond un peu un dans l'autre. Ça permet vraiment au lecteur d'assimiler ça. Puis tu remarqueras au début du récit, les anacolytes graphiques arrivent peu à peu. Mm-hmm. Puis ils arrivent de façon vraiment plus simple. C'est juste d'arriver puis de prendre le lecteur par la main au début puis de montrer voici le système, la façon qu'il fonctionne. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, ces fusions-là, ces transitions-là temporelles deviennent plus complexes au niveau de la composition. Je pense à le bouclier du chevalier, à un moment donné, qui est aussi la carrosserie d'un camion de transport. Donc là, ça devient un peu plus complexe. C'est moins linéaire, mais on est plus dans la transition de l'image d'une époque vers l'autre. À ce moment-là, le lecteur a eu le temps de s'habituer à ces transitions-là au début, puis après ça, il a assimilé le concept, donc après ça, tu peux l'emmener n'importe où.
Oui, en fait, on dirait que ça devient attendu, on dirait que ça fait partie de l'esprit de l'album, et ce qui fait que, rendu à un moment donné, on s'étonne même pas d'avoir, dans le fond, une chevauchée de chevaliers qui intègre une automobile qui fait jouer du Frank Zappa dans essentiellement la même image, mais où on vient à superposer les époques pour nous amener de façon hyper fluide, dans le fond, d'une époque à l'autre.
Ouais, puis même tu sais la notion de guerre, je veux dire, t'as des chevaliers avec des champignons atomiques en arrière, je veux dire, parce que le personnage du 20e siècle travaille quand même dans le laboratoire de Los Alamos où ils ont conçu la bombe atomique. Donc il y a il y a des symboliques comme ça que tu peux vraiment jouer avec. Mais tu vois, c'est même sorti, ces anacolytes graphiques là sont même, je les ai même sortis de Advocatus Diaboli, j'en ai utilisé dans Vous avez déçu la beauté du monde à un certain endroit. Donc, c'est quelque chose que je continue à vouloir utiliser.
Et sur le plan de la collecte, je pense que tu mets le doigt aussi sur un élément qui me semble faire que ça fonctionne bien aussi, c'est les résonances thématiques. Parce que, bon, je pense qu'on va contextualiser un peu l'histoire pour que les gens nous suivent bien. Donc, j'introduis, je te laisse poursuivre. Dans le fond, essentiellement, c'est centré sur le linceul de Turin. Donc, à deux périodes, t'as un chevalier, donc Geoffroy, qui, lui, est chargé de protéger ce linceul-là. Il y croit pas vraiment, mais bon, c'est les croisades, c'est la tâche qu'on lui confie. Et dans l'époque moderne, l'époque post-2011 de l'Amérique, et bien là, tu as un scientifique, Raymond Rogers, qui, lui, n'y croit pas nécessairement plus, mais est chargé d'analyser et de voir, bien, est-ce que c'est effectivement une relique de l'Antiquité, ce linceul-là, est-ce qu'il existe pour vrai? Alors, à l'intérieur, dans le fond, d'un brassement sur la foi, d'un questionnement qui est similaire entre les deux personnages, dans un contexte de guerre, d'une lourdeur, au bout du compte, d'une violence qui est similaire aussi des deux côtés.
Oui, mais c'est vraiment un conflit intérieur, à l'intérieur de conflits extérieurs dus à certains symboles. Hein. Je pense à Ray Rogers, en fait, là, qui est un scientifique là, vraiment rigoureux et tout ça. Lui, il a été invité à participer à cette mission scientifique-là. C'est un non-croyant. Là, puis il s'est retrouvé en 1977 avec une mission dirigée par la NASA pour aller voir c'était quoi ce linceul-là. Puis il a rencontré Barry Schwartz, qui est devenu son ami. Barry Schwartz, il faut dire que c'est un juif, en fait, un juif américain, qui aujourd'hui est payé par le Vatican pour parler du linceul de Turin. C'est quand même quelque chose. Puis lui, il croit vraiment que c'est un Jésus historique qui est sur qui apparaît sur le linceul. Donc, en fait, Barry Schwartz et Ray Rogers, quand ils sont arrivés en 1977, ils ont dit dans deux minutes, on va savoir, on va tout de suite comprendre que c'est un faux, qu'il y a de la peinture dessus. Mais ils sont arrivés là, puis ils ont eu comme une multiplication des questions. Plus qu'ils fouillaient, plus qu'il y avait de questions. Donc, ils ont trouvé plein de choses, là, des plantes originaires de la région de Jérusalem, alors que le linceul, si c'était un faux, qui datait des années 1200, européen, ben, il n'a jamais été dans le coin de Jérusalem, techniquement. Puis le sorte de tissu qui était fait, il y a un tissu presque pareil qui a été trouvé dans la forteresse de Masada, pas loin de Jérusalem aussi. Donc, il y a plein de petits... Il y a plein de petites choses comme ça qui se sont retrouvées confrontées, eux, avec cet objet-là. Ça les a vraiment, mis face à leur propre croyance, dans le fond. Comme le chevalier au Moyen-Âge se retrouvait devant un objet qui, pour lui, était un objet quand même de à l'époque, c'était vraiment le l'agneau qui s'est sacrifié. Puis, il tuait au nom de ça, lui. Il se posait des questions à ce moment-là. Il comprenait pas, là. Donc, c'est vraiment ça, cet objet-là. Puis moi, je l'ai vu en Italie, je suis allé à Turin, je suis allé le voir. C'est quand même assez spécial, ne serait-ce qu'un fond qui date de 1200 ans. On voit quand même un homme dessus qui date de cette époque-là. Donc, c'est quand même, c'est impressionnant.
Et le fait d'avoir cette parenté-là entre tes personnages, ben ça permet, j'imagine, aussi de faire des points de correspondance. Ça permet au scénariste Christian Quesnel de pouvoir orienter le dessinateur Christian Quesnel dans la mise en scène visuelle, dans l'orientation de tout ça, parce qu'il y a une connexion au-delà de l'objet lui-même entre tes deux personnages.
Exactement. La cohabitation, je te rassure tout de suite, la cohabitation entre le scénariste et le dessinateur, ça fait très bien. Puis, tu vois, ça, c'est quand même quelque chose que j'ai scénarisé, puis j'ai trouvé extrêmement difficile à scénariser, parce que là, il y avait tellement de recherches, puis il fallait tellement mettre de points en commun, de convergence entre ces deux personnages-là, puis faire coïncider leur mort au même moment dans le récit. Donc, c'est quelque chose qui a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Mais pour moi, ça a été quand même un grand plaisir esthétique de jouer avec ça aussi. Je crois que le scénario était réglé, l'esthétisme était vraiment, pour moi, ça m'a permis aussi de mettre en valeur une esthétique que j'aime beaucoup, qui vient du black metal, donc ça aussi, je me suis payé à très bien.
Oui, en fait, pour tes chevaliers, entre autres, et je me rappelle d'un club de lecture qu'on avait fait sur le Moyen-Âge en BD, et où on avait pris, entre autres, Advocatus, et on se disait, mon Dieu, on est vraiment dans un imaginaire, dans une relecture métallique, si on peut dire, du Moyen-Âge, avec les maquillages aux yeux qui nous rappellent un peu les pochettes d'albums, puis l'esthétique quand même très présente de ce genre musical-là.
Oui, ben Jérôme Vermette, je me souviens, à l'époque, il avait souligné cet aspect-là, puis... Moi, je l'avais déjà fait pas longtemps. Comme je te dis, il y a des correspondances entre mes albums, même si c'est pas des séries. Dans Ludwig, il y a quand même des maquillages inspirés des groupes de black metal. Puis après, j'ai travaillé aussi sur les cinq grands groupes metal du Québec aux éditions Sawin, où j'ai eu le plaisir de travailler sur Forteresse. Donc, c'est toutes des choses que moi, c'est des esthétiques qui me parlent beaucoup. Puis je trouvais ça intéressant de fantasmer sur ce Moyen-Âge-là, qui était un peu différent, qu'on voit très peu en bande dessinée. En fait, on voit surtout dans l'Heroic Fantasy, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'inspirent du Moyen-Âge, mais moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment un Moyen-Âge historiquement qui était authentique, mais j'ai emmené, si on veut, un esprit de fantasme, mon fantasme à moi du Moyen-Âge, là, tout en n'extirpant pas, je ne peux pas extirper l'Église catholique du Moyen-Âge.
Non, puis en fait, c'est que ça s'ajoute. En fait, tu parlais d'un ouvrage qui a nécessité énormément de recherche. J'ai l'impression qu'il. En fait, t'en mentionnais deux, mais j'aurais envie d'en rajouter d'autres. En fait, en mesure où tu as une recherche historique, à la fois pour le Moyen-Âge, à la fois pour la période moderne. Rogers a existé pour vrai. Il y a une histoire véritable d'un objet qui est véridique aussi. Mais en parallèle, il y a tout le travail préalable parce que. C'est évoqué à la fin de l'album dans les annexes, mais il y a un travail de recherche pour voir justement quelles explorations avaient été faites. On est dans un projet de recherche-création, et tu disais au départ, ben, on veut amener quelque chose qui n'a pas encore été exploré tant que ça en bande dessinée. Donc, faut voir aussi tout ce qui est venu avant chez d'autres auteurs, dans la BD franco-belge, dans la BD américaine et autres, de voir un peu qu'est-ce qui a été exploré. Donc, il y a vraiment un positionnement stylistique à prendre aussi.
Oui, il a fallu que je monte un corpus d'œuvres en bande dessinée où il y avait des jeux temporels, tu vois. Puis il a fallu que je fasse une nomenclature de ces jeux-là, si on veut, comme télescopage temporel. Bon, ça, ben, c'est le télescopage actoriel, en fait, je devrais dire, mais parce que on trouve ça dans... à un moment donné, il y a un album de Tintin, je pense que c'est... mon Dieu, c'est Rackham le Rouge, en fait... L'ancêtre d'Adoc. Adoc, chez lui, il commence à imiter son ancêtre, puis là, tu te retrouves, le cadre, il tombe dessus, c'est comment que Adoc est maladroit. Le cadre de son ancêtre, il passe à travers sa tête, puis là, tu le retrouves, lui, comme son ancêtre. Tu vois, il y a un changement temporel là, qui s'effectue, puis là, tu le retrouves sur le port de son bateau, je sais pas, au 16e siècle. Tu vois. Mm-hmm. Il y a des choses comme ça où il y a Druillet avec Salambo qui a complètement transposé un récit de l'Antiquité dans une science-fiction. Où il y a Bilal avec la forme des immortels aussi qui a emmené les dieux de l'Antiquité égyptienne dans le Paris de 2000. Donc, il y avait plusieurs choses comme ça que j'ai pu aller voir, puis j'ai pu faire la nomenclature. Puis il y a Here, naturellement, là, qui a été fait, là, dont j'ai oublié l'auteur, mais qui a un plan de caméra qui est toujours fixe, mais qui se passe dans différentes époques. Mm-hmm. Tu vois, il y a des insertions temporelles à l'intérieur des cases qui sont vraiment intéressantes. Donc, en étudiant ça, moi, ça m'a démontré les possibilités de qu'est-ce qui avait été fait, puis qu'est-ce qui n'avait pas été fait, puis qu'est-ce qui se rapprochait le plus de qu'est-ce que j'avais fait, c'était le travail de Sergio Toppi. Sa façon de condenser les images dans la composition à l'intérieur d'une planche, ça permettait une condensation temporelle où il y a différentes scènes qui se côtoyaient. Mais c'était pas, il n'y avait pas de passerelle qui était créée entre les temporalités. Mmh. Sauf que ça m'emmenait une piste quand même au niveau de la composition.
Donc, on accumule des pistes, puis est-ce qu'on procède, parce que en termes de création, est-ce que tu fais une liste éventuellement de procédés? Je veux dire, tu vois, exemple, le cas du Tintin, ça donne des idées, je veux dire, on t'a des images, donc on note, on esquisse, on croque, on essaie de voir, puis après ça, éventuellement, on essaie d'intégrer ça au scénario, est-ce qu'on se fait des banques? Je veux dire, comment on réussit un peu à fonctionner dans un contexte où faut cadrer le corpus, mais le corpus va inspirer le créateur aussi, donc il y a j'imagine que ça va être assez dense comme période, là.
C'est extrêmement dense. À un moment donné, c'est paniquant même parce que tu sais pas où tu t'en vas vraiment. C'est difficile de t'expliquer la façon que ça peut se passer parce que techniquement, quand on fait un album de bande dessinée, c'est assez linéaire. Je veux dire, on a une idée de synopsis, ensuite on développe le scénario, il y a le découpage, puis ensuite on fait les planches originales, puis bon, voilà. Sauf que là, il y a beaucoup de va-et-vient entre la théorie puis la pratique. Moi, je trouve ça extrêmement bénéfique. C'est chaotique, mais en même temps, c'est bénéfique parce que au fur et à mesure qu'on crée, on peut revenir puis théoriser sur ce qu'on vient de faire puis essayer de comprendre, tu vois, parce que, mettons, j'ai schématisé beaucoup les scènes d'Anacolute. Tu sais, on parlait tantôt de la scène de l'épée qui se transforme en avion. Bon, ben j'ai séparé, j'ai fait des silhouettes des différentes temporalités. Tu sais, il y avait une temporalité qui était bleue, qui était le Moyen-Âge, il y avait la temporalité rouge qui était le 20e siècle. Puis en arrière, il y avait une zone grise, qui était le ciel, tout ça. Puis Jérôme, mon Dieu, mon co-directeur, il me dit, ben, c'est quoi cette zone-là? Ben, j'ai dit, c'est une zone neutre. Mm-hmm. Il dit, non, c'est pas une zone neutre, nécessairement. C'est peut-être autre chose, tu sais. Puis là, je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis en fait, c'était plus qu'une zone neutre. C'était le temps du lecteur. C'était le temps du lecteur qui était aussi le ciment entre les deux époques qui permettait de saisir ces deux époques-là ensemble. Mm-hmm. Donc, la zone n'était pas si neutre que ça, tu vois. Fait que c'est des choses comme ça qui te permettent de... C'est ce retour-là, de théoriser. Souvent, on dit, ah, chose de nouveau puis d'aller plus loin. Moi, je fais pas de série. Je veux pas. J'admire beaucoup ceux qui en font, mais moi, je veux pas répéter une recette. Je veux me renouveler. C'est là que je trouve ma motivation à chaque fois que je fais un album. Donc, c'est ma façon à moi d'aller plus loin dans mes recherches puis dans mes trouvailles, parce que c'est comme ça que je m'émerveille encore sur la table de fin, tu vois.
Oui, puis en fait, ce que tu amènes sur la zone neutre, qui est pas si neutre, est important, en fait, puis je pense qu'on peut même pousser un peu la discussion là-dessus, parce que, et je regardais, et encore là, je le mentionne, en fait, pour ceux qui disent, mais c'est intéressant, mais je voudrais en savoir plus, bien, à la fin d'Advocatiste, il y a quelques pages qui présentent un peu ces éléments-là, entre autres, donc, on peut retrouver ton mémoire de maîtrise aussi en ligne, si on le cherche, mais justement, si l'image avait été plus chargée que ça, ou s'il n'y avait pas de zone de respiration, justement pour orienter puis diriger le regard vers les éléments qui vont supporter cette transition-là, mais probablement que la transition n'aurait pas marché. Donc, il y a une architecture de planche, et des fois, en fait, avec l'exemple de l'épée de l'avion qu'on a parlé tantôt, c'est assez clair, mais dans d'autres cas, exemple, on a une scène où c'est Rogers qui est au centre essentiellement de la page, qui est entouré par des personnages du médiéval, qui lui est au cœur, mais il y a toujours une mécanique pour que, pour l'œil, ça soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion, dans le fond, pour le lecteur.
Ouais, ben c'est ça. Tu vois, moi, j'ai un style assez réaliste. Puis là, en plus, c'est de l'aquarelle, il y a des textures. L'idée, c'était de simplifier les formes, d'emmener les formes à être facilement intelligibles, décodables pour le lecteur qui, lui, dans le fond, faisait juste suivre le flux que j'indiquais. Parce que c'est toujours une constante chez moi, c'est un souci toujours de penser au lecteur, à sa lecture de gauche à droite, de haut en bas. Donc, c'est vraiment d'orienter les choses en fonction de ça. Puis c'est vu que je jouais avec les codes la bande dessinée, ben il fallait quand même que je refasse les codes, mais à l'intérieur de cette lecture-là, toujours en fonction de ça. En tout cas, je me suis efforcé de simplifier la structure de l'image tout en sacrifiant pas mon style qui est quand même complexe, qui est pas de la ligne claire non plus.
Oui, puis tout ça au service, puis si j'aurais, en terminant, essayé d'amener une description aussi d'Advocatus, c'est qu'à travers tout ça, à travers ces processus-là, reste aussi, tu dis, on pense au lecteur, on pense à lui offrir une expérience de lecture aussi. C'est fluide, ça fonctionne, ça passe d'un élément à l'autre dans le style, et nécessairement, mais le lecteur en ressort en ayant vécu, au bout du compte, quelque chose à travers ces pages-là. Donc, ça nous amène vers un côté expérientiel, je trouve.
Ben, écoute, c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis, parce que j'ai tellement travaillé fort, tu sais, qu'à un moment donné, tu ne vois plus ce que tu fais là, sur ton projet. C'était mon souhait de jamais perdre de lecteur de vue. Le lecteur, tu as un pacte avec. Toi, tu crées des images, tu crées, mettons, une image A et une image B, puis lui, il fait le lien entre les deux. Il faut que tu l'emmènes à faire le lien entre les deux, puis si tu veux vraiment ne pas le perdre, il faut que ton lecteur soit quasiment au-dessus de ton épaule quand tu es sur ta table à dessin, quand tu conçois les choses. Fait que c'est toujours le lecteur qui est ton partenaire là-dedans. Puis il faut, ça, c'est un truc. Moi, des fois, là, je regarde des albums, surtout des auteurs européens. Je regarde ça, là, puis tu dis waouh, c'est tellement des belles images, esthétiquement, c'est tellement beau. Mais c'est de la masturbation, je veux dire, visuelle, parce que tu vois les images, c'est beau, mais ça raconte rien. Fait que moi, c'est la séquence d'images, pour moi, est extrêmement importante à ce niveau-là. Tu vois. Les gens me disent c'est pas de la bande dessinée que tu fais, c'est de l'art. Non, attends, mais toute bande dessinée est une forme d'art, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas parce que j'ai une forme esthétique qui s'inspire des beaux-arts que c'est pas de la bande dessinée aussi. La bande dessinée, c'est pas une esthétique, c'est un mécanisme, c'est un dispositif, c'est des images qui sont en coprésence sur une page, qui sont solidaires entre elles, puis qui créent un sens, une avec l'autre. Donc, quand on a assimilé ça, théoriquement, on peut l'appliquer de façon pleinement consciente au niveau de la création.
Et je rappelle, en fait, l'album qui est autour de cette discussion s'appelle Advocatus Diaboli. Donc, première publication en 2019 qui a été donc rééditée tout récemment du côté de Mouel Graphique. Christian Quesnel, ben merci beaucoup et je pense qu'on va se reparler dans quelques semaines avec une autre grosse sortie. Alors, j'ai envie de te dire à très bientôt.
Merci beaucoup, Raymond. Toujours un plaisir.
Et voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, avec nous, il y aura Richard Valeran pour Arthur Leclerc et Samuel Quentin pour Shérif Junior. D'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine pour une autre édition de La Vie en BD.